comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Stress, phobie, confiance en soi, estime de soi, impossibilité de surmonter un deuil ou de rompre, ne pas réagir comme on l'avait prévu face à un événement. Notre quotidien est façonné par nos émotions, par nos rapports aux autres et chez certains, ce qui passerait un jour presque sans problème dans d'autres circonstances, fait blocage, perturbe, pollue, voire même empêche de continuer. Ce malaise peut évoluer vers le mal-être. On se sent prisonnier et il n'est pas toujours simple de mettre des mots sur le problème, de prendre conscience de l'origine du trouble. Réfléchir, verbaliser, raconter avec l'intention de dépasser l'obstacle et de surmonter l'épreuve. Identifier la source du problème, déterminer des pistes, des solutions. Face à ces questions liées à nos émotions, nos relations, un psychologue peut montrer la voie, dessiner des chemins pour éclairer un paysage qui, au fil du temps, est devenu de plus en plus sombre, parler, se confier pour retrouver confiance. Priorité santé spéciale, question psy aujourd'hui. Vos messages sur notre page Facebook, vos questions à notre numéro 33 84 22 75 75. Ces questions, vous les posez aujourd'hui à Mamadou Mbodj. Bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Mamadou Mbodj, vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie à Dakar, au Sénégal. Et un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, qui répondra elle aussi à des questions de nos auditeurs et de nos auditrices.
Priorité santé sur RFI.
Beaucoup d'appels au 33 84 22 75 75. Avant d'écouter justement ces questions des auditeurs, Mamadou Mbodj, une question qui se pose parfois: comment savoir si on a vraiment besoin de consulter un psychologue ou si un problème peut se régler d'une autre façon?
Écoutez, à partir du moment où les problèmes, où on est confronté à des problèmes soit connus, soit nouveaux, mais face auxquels les moyens habituels qu'on avait de surmonter, de régler ces problèmes ne suffisent plus et que ce problème persiste, je pense qu'il est légitime d'aller voir un psychologue.
Simplement quand on ne sait plus à qui en parler?
Quand on ne sait plus à qui en parler, et souvent, si vous voulez, les gens auxquels on peut se confier ne sont pas forcément formés à cette écoute-là. Donc leurs conseils peuvent vous induire en erreur, si vous voulez, ou tout simplement, vous avez affaire à des gens auxquels vous vous confiez, mais qui sont souvent dans des problèmes pires, plus graves, ou tout simplement dans des problèmes identiques. Donc, ce qui est conseillé, si l'environnement vous le permet, si un psychologue est accessible, un psychologue, une psychologue, il est possible, vous n'avez pas besoin d'être malade, vous n'avez pas non plus à appréhender d'être perçu comme malade en allant voir le psychologue, puisque c'est juste un espace d'échange, un espace d'écoute, une écoute bienveillante où vous n'allez pas être stigmatisé, vous n'allez pas être perçu comme malade. C'est un lieu d'échange, un lieu de dialogue où petit à petit, avec patience, l'individu vous aide à aller chercher en vous les ressorts, les atouts nécessaire pour reprendre votre vie en main, trouver les moyens de faire face aux problèmes auxquels vous êtes confrontés, d'accord, et retrouver quelque part votre autonomie
et votre bien-être. On n'en ressort ni avec une ordonnance, ni avec un diagnostic. Non. On peut parler des émotions. Mais est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, Mamadou Mbodj, que dans beaucoup de régions du monde, eh bien, des gens ont du mal en train de s'imaginer consulter un psy? Il y a encore des préjugés négatifs.
Oui, il y a encore des préjugés parce que psychologie, dès qu'on dit psy, on a plutôt tendance à penser à la psychiatrie. La psychiatrie renvoie à la maladie mentale ou aux maladies mentales. Or, la psychologie, les psychothérapies, d'une manière générale, je veux dire, ce ne sont pas que des malades qui y vont. C'est en majorité des gens, tout simplement, des gens comme vous et moi, qui peuvent à un moment donné de leur vie être confrontés à des problèmes, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan affectif, sur le plan familial, ou tout simplement avec un ami, quelqu'un de proche, avec qui la relation est devenue à un moment donné problématique et qu'on ne sait plus quoi faire.
Besoin de conseils, Mamadou Mbodj. On prend tout de suite les auditeurs de Priorité Santé en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Et une auditrice pour commencer qui nous appelle du Gabon, de Libreville, c'est Ankaï. Bonjour Ankaï.
Bonjour.
On vous écoute Ankaï.
Alors, j'ai un souci. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un souci, mais la question que je souhaiterais poser, c'est de savoir d'où ça vient, cette solitude que j'ai. Donc, depuis toute petite, bon, j'ai des frères et sœurs. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on était tous ensemble. À l'école primaire, j'avais des amis. À mon secondaire également. C'est vrai que j'allais pas chez eux, mais on se retrouvait à l'école. Et c'est à la fac que j'ai réalisé que j'avais ce plaisir, entre guillemets, de rester seule, de ne pas me mélanger aux autres. Et là, je suis active, je travaille, j'ai vraiment cette solitude en moi, de ne pas avoir d'amis, de ne pas me retrouver, par exemple, le vendredi soir avec des collègues. Et voilà. Donc, je suis maman. Et c'est vrai que souvent, j'ai un peu peur que mon fils soit comme moi, en fait. Donc, j'ai tendance à sortir avec lui, que lui, il aille voir des amis. Mais vraiment, ma question, c'est de savoir d'où ça vient.
Mais Ankaï, vous dites, j'ai le plaisir d'être seule. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est négatif pour vous ?
Effectivement, mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai besoin de... Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler. Donc, de temps en temps, j'aime bien me retrouver, je souhaiterais bien me retrouver avec des personnes, à rigoler, aller au restaurant, des choses comme ça.
Mamadou...
On va dire 80% de mon temps, j'aime bien rester chez moi. Mais des fois, ça me pèse.
Mamadou Mbod, je vous écoute.
Oui, alors, la question que j'ai envie de poser, c'est que vous préconisez pour votre fils tout le contraire de ce que vous vous imposez à vous. Vous dites que vous préconisez pour votre fils, vous aménagez pour votre fils une vie d'ouverture, une vie de contact, une vie d'activité. Hein? Vous dites, j'ai peur qu'il devienne comme moi, donc je le laisse jouer avec les voisins, aller chez ses cousins, ce que vos parents ne faisaient pas avec vous. Il fait beaucoup d'activités en dehors de l'école. Je fais tout pour qu'il ne soit pas solitaire, mais vous aimez la solitude.
Oui.
Il y a un problème.
Oui.
Je pense qu'au départ, vous vous êtes contenté des frères et sœurs. C'était peut-être une erreur des parents, comme beaucoup de parents encore, qui confinent leurs enfants en dehors de l'école à la maison. Vous vous êtes contenté des frères et sœurs qui font leur vie, qui ont fini par faire leur vie, qui n'ont pas forcément le temps qu'ils ont pu avoir avec vous, et qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il vous appartient maintenant à vous, d'autant plus que vous travaillez, d'essayer de voir comment élargir votre cercle d'amis, comment avoir des activités collectives, ou tout simplement des activités qui puissent vous mettre en contact avec d'autres personnes. Parce que vous tenez un discours à votre enfant qui est finalement contraire à ce que vous préconisez pour lui. Et en même temps, vous avez peur. C'est légitime d'avoir peur qu'il devienne comme vous. Maintenant, il y a ce risque-là également. Puisqu'il voit que maman aime être seule. Ou alors, il faudra lui expliquer aussi pourquoi cette solitude.
Et du coup, Ankaï, est-ce que vous refusez des invitations qu'on vous propose ? Vous préférez rester chez vous ou finalement, les gens ont compris que vous ne sortiez pas et du coup, on vous propose plus grand-chose ?
De temps en temps, il faut vraiment me pousser. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte peut-être que c'est une peur pour moi de m'attacher. J'ai tendance à être entière. Donc, je m'attache facilement aux gens. Et dès qu'il y a une petite trahison, même amicale, hein, et tout de suite, je me braque. Et c'est vrai que lorsque je repense à ça, je me dis, bon, ça sert à rien de nouer des amitiés avec les gens. Lorsque tu seras déçu, tu vas te renfermer. Je pense que c'est ça le gros problème. Et donc, c'est de savoir d'où ça vient, cette peur de la trahison qui fait que je me coupe des gens.
Alors, il faudrait savoir, malheureusement, on ne va pas faire une consultation individuelle, ce qui a pu se passer dans votre enfance ou dans votre adolescence, ou même dans votre vie de jeune femme. Est-ce qu'il y a eu une trahison ? Parce que vous dites que dès que je m'attache, je suis déçu. D'accord ? Est-ce que maintenant, dans cet attachement, dans ces amitiés, vous avez tendance à tout attendre de l'autre, à tout investir ? Or, nos amis ne peuvent, si vous voulez, qu'occuper une partie de notre vie.
Oui, bien sûr.
D'accord ? On ne peut pas tout attendre d'une relation. Et si cette relation devient exclusive, évidemment, le moindre moment d'indisponibilité de l'autre va être vécu comme une trahison.
Tout à fait.
En cas, si vous revenez dans vos souvenirs, sans en faire forcément état du tout à l'antenne, bien sûr, si vous revenez dans vos souvenirs, peut-être que vous pouvez vous remémorer
Absolument.
Quelques épisodes où vous êtes senti en quelque sorte un peu trahi et abandonné.
Je sais pas. Bon, c'est vrai que mes parents ont divorcé, j'étais très jeune, j'avais 10-11 ans.
Oui.
Donc, il y a eu une séparation des enfants, donc une partie... des enfants a vécu avec mon père, une autre avec ma mère. Bon, je pense que c'est peut-être la première trahison,
oui.
Je sais pas. Mais je sais pas si ça part de là. Bon, souvent, j'y pense, je dis bon, peut-être que c'est ça.
En tout cas, de ce que vous dites, c'est le premier élément qui nous paraît en tout cas le plus probant. Maintenant, il serait intéressant que vous puissiez, à défaut d'accéder à une psychologue, puissiez en parler à votre médecin, à votre gynécologue. D'accord? Mais si vous avez dans votre environnement la possibilité de consulter un psychologue, je pense que bon, vous pourriez faire un travail qui ne sera pas long
Pour revenir sur tout ça, bah écoutez, d'accord. Voilà cet encouragement de Mamadou Mbodj. En Kaï, on vous souhaite une très très bonne journée à Libreville. Nous allons tout de suite partir pour le Cameroun, pour Maroua, où l'on retrouve Boris. Bonjour Boris.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi, c'est sur la relation dans une couple. Quoi. Quand je suis en relation, avant les problèmes, je suis calme, fidèle et tout. Après une déception, et malgré la déception, je n'arrive pas à me débarrasser de ma copine qui m'a énervé. Et avec ça, je l'appelle toujours. Et quand c'est elle qui m'appelle pour dire, enfin, il faut plus m'appeler, oublie-moi comme ça, je suis content, je ne sais pas le pourquoi. Pourquoi ça ne vient pas de moi ?
Boris, vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
Et ça fait longtemps que vous êtes en couple avec cette relation un petit peu compliquée ?
Oui, ça fait longtemps, pas moins de 6 ans.
6 ans ? Vous avez 26
oui.
mois ou 6 ans ?
6 ans.
6 ans, donc ça fait de longues dates. Et vous avez eu connaissance à plusieurs reprises de problèmes dans votre relation, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et
surtout le cas de l'infidélité.
L'infidélité, et vous-même, vous faites la même chose ?
Oui, quand je suis d'abord dessus, je me mets à faire cela pour me venger à cela.
Par contre, vous n'êtes pas capable de dire « ça suffit, on arrête tout ».
Oui, c'est ça.
Mais, Mamadou Mbodj.
Merci. Mais est-ce qu'il vous arrive d'en parler avec elle ?
J'en parle beaucoup, même plusieurs fois. Même.
Oui, parce que d'abord...
Les langues sont comme des règles.
Il faut que vous partiez du principe que personne ne vous oblige tous les deux à être ensemble. Vous êtes ensemble parce que vous le voulez. D'accord ?
Oui.
Si une infidélité ou des moments d'infidélité surgissent dans le couple, c'est qu'il y a des insatisfactions d'un côté comme de l'autre. Elle, quelles que soient ses raisons, vous dites que vous le faites pour vous venger d'elle. Est-ce que vous avez essayé de discuter avec elle pour savoir pourquoi cette infidélité ?
Oui, c'est des questions où je pose ça à chaque fois. Hein.
Oui.
Et ses réponses ?
Elle me fait des promesses pour dire, bon, ça va, je ne vais plus répéter des choses comme ça. Et après, ça se répète.
Mais ce ne sont pas des explications, Boris ?
Vous dites ?
Elle s'engage à ne plus recommencer, mais en attendant, elle ne vous explique pas les raisons pour lesquelles elle a été voir ailleurs.
Bon, quelque part, c'est dit que, bon, je n'assure pas ses besoins, des choses comme ça.
Ah. Et alors, vous lui avez demandé ?
Oui, les besoins, là, bon, tel que la situation se présente, moi, j'ai dit, avant de venir envers elle, j'ai tout expliqué. Ce qui est à mon niveau, je peux le faire. Ce qui n'est pas à mon niveau, je ne peux pas le faire.
Alors, quand vous parlez de ne pas assurer ses besoins, il s'agit de besoins matériels ou de besoins physiologiques, sexuels ?
Non, des besoins matériels.
Des besoins matériels. D'accord.
Ouais.
Et vous sentez que vous ne pouvez pas faire face à ce qu'elle attend de vous ?
Oui,
mais vous ne pouvez pas la forcer non plus à rester.
C'est ça.
D'accord. Si pour des besoins matériels insatisfaits, elle éprouve le besoin d'être infidèle, et que malgré le fait que vous en ayez parlé, ça continue, peut-être qu'il faudrait envisager une rupture, je ne sais pas. À moins maintenant que vous teniez à elle au point de pouvoir faire l'impasse sur ses infidélités, et là, vous pouvez rester ensemble jusqu'au moment où elle se sentira sécurisée, peut-être.
Mais moi, Boris, j'ai une question peut-être un petit peu abrupte. Vous avez envie de la quitter ? Vous avez envie de la quitter ?
Oui, j'ai envie de la quitter, mais je n'arrive pas. C'est ça ma question. Comment faire pour quitter ?
Ah, Mais comment faire pour quitter? D'abord lui expliquer, ne pas partir du jour au lendemain, lui expliquer et d'abord comprendre les raisons pour lesquelles vous la quittez. Est-ce que vous la quittez parce que vous n'êtes plus amoureux? Est-ce que vous la quittez parce que tout simplement vous sentez que elle sent les besoins économiques, matériels qu'elle attend de vous, dont elle attend la satisfaction de vous, elle continuera de vous tromper? Ou que vous, vous sentez que rien ne vous permet pour l'instant d'envisager une amélioration de votre situation matérielle au point de pouvoir la combler?
D'accord.
Donc, il y a un travail de réflexion à faire derrière ça.
Il y a un travail de réflexion.
Hein.
Et si ça ne suffit pas maintenant, allez voir quelqu'un qui puisse vous accompagner dans ce processus de séparation que vous voulez, mais que vous ne parvenez pas à satisfaire pour l'instant.
Voilà, Boris. On vous souhaite une bonne journée au Cameroun, à Marois. On va partir tout de suite pour le Sénégal, à Dakar. On retrouve Camara en ligne. Bonjour, Camara.
Bonjour, madame.
On vous écoute. On est à votre écoute.
Oui, moi, comme je l'ai dit, j'avais une fille de 6 mois.
Mmh.
Oui, 5 mois, je pense. Elle est née le 20 décembre.
Mmh.
2018. Mais elle semble que elle ne me connaît pas beaucoup parce que moi, je quitte le travail. Je quitte à la maison 8 heures du matin.
Mmh.
Et je rentre à 18 heures.
Mmh.
Comme elle n'était pas là, elle était au village. Comme je l'ai pas dit, presque les 5 mois, j'ai envoyé ma femme à Dakar pour qu'elle va venir vivre avec moi un peu.
Mmh.
Mais la fille, je ne sens pas l'amour entre moi et elle, je dirais. Là, je suis inquiet. Quand je descends le soir, je la prends dans mes bras, mais si c'est la mère qui prend dans mes bras, là, elle est contente. Mais si c'est moi, là, elle n'est pas... Je ne sais pas si c'est...
Alors, Camara, moi j'ai des petites questions à vous poser. Vous dites, quand je prends mon bébé dans mes bras, elle n'est pas contente. Du coup, vous l'avez prise dans les bras, vous jugez qu'elle n'est pas contente. Qu'est-ce que vous faites? Vous la rendez à sa maman tout de suite?
Non, j'ai essayé de forcer un peu pour qu'elle reste dans mes bras, mais...
Forcer, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites? Vous la bercez? Vous marchez un petit peu ou vous restez comme ça en la regardant, en disant, oh là là, tu t'aimes pas papa, qu'est-ce que tu fais?
Voilà, c'est ça que je fais, je prends dans mes bras, je dis pourquoi tu m'aimes pas. Après sa mère me dit, ah, c'est toi qui as fait. Comme j'ai accouché presque 6 mois, tu n'es pas allé, 5 mois, tu n'es pas allé me voir, c'est pour cela, le bébé ne te connaît pas, tout ça là. Ça aussi, parfois, ça me décourage. Ouais, comment ce que je veux dire.
C'est vrai que c'est difficile quand on voit un bébé qui réagit mal. En même temps, peut-être que le bébé, si vous lui posez la question en disant tu m'aimes pas, peut-être qu'il va réagir, je sais pas. Je vais donner la parole à Mamadou Mbodj sur cette façon, en fait, de créer l'attachement avec un petit bébé qu'on ne voit pas beaucoup. Ça peut se faire doucement, ça peut se faire tendrement, mais en tout cas, peut-être pas par une question négative à un petit bébé.
Alors, moi, je tiens à vous rassurer tout de suite. Votre préoccupation est très noble, très saine.
Ah bah oui, d'avoir envie d'être aimé
si
par son bébé, c'est magnifique.
Si vous voulez, d'avoir envie d'être aimé par son enfant. Maintenant, il faut donner à cet enfant, d'abord, 5 mois, c'est très jeune, si vous voulez. Vous n'étiez pas là avant, elle a 5 mois. Le lien que vous allez établir, il faut du temps à ce lien. C'est-à-dire un lien quotidien, pouvoir voir comment soulager la mère, comment profiter de la moindre occasion qui vous sera donnée à la maison pour vous occuper de l'enfant, jouer, la prendre sur vous, essayer de lui raconter des histoires, de lire un livre, si vous pouvez, même si vous avez l'impression que l'enfant ne comprendra rien, ou de chanter, participer à son entretien quotidien, apprendre à lui donner son bain, apprendre à donner le biberon si votre femme donne le biberon, ou apprendre à lui faire faire son rôle, si la femme l'allait et que vous êtes à côté, pouvoir au moment où l'enfant a terminé. Si vous voulez, il faudra du temps. Et ce sera pas dans la quantité de temps, c'est dans la régularité et la qualité du temps que vous allez passer avec cet enfant-là.
C'est un lien qui se travaille.
C'est un
au
lien
jour
qui
le
se
jour.
Travaille, qui se construit au jour le jour. Et vous verrez que cet enfant-là, très rapidement, dans un an, au bout d'un an, 2 ans, commencera à vous appeler papa, commencera à courir vers vous, commencera à vous tendre les bras, commencera à vous embrasser. Et vous aurez enfin obtenu de cet enfant ce que vous en attendiez.
Voilà.
D'accord.
Le plus beau des travaux à faire pour vous, Camara.
Absolument.
Très bonne journée à Dakar, au Sénégal. On poursuit en partant pour le Congo, pour Brazzaville, où nous sommes en ligne, Mamadou Mbodj, avec Aude. Bonjour, Aude.
Bonjour.
On vous écoute, Aude.
Oui, en fait, moi, excusez, le problème, c'est que j'ai vraiment manque en confiance en moi. J'ai 26 ans actuellement et j'ai vraiment du mal à m'exprimer en public. Et quand je suis avec des gens avec lesquels je ne suis pas habituée, je suis vraiment timide. Et je pense que l'origine, c'est peut-être l'enfance. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais éveillée. Mais le fait qu'on grondait souvent sur moi, parfois sans raison, parfois il y avait des punitions qui n'avaient une tête ni queue. Au fur et à mesure, j'ai perdu l'habitude de parler en public. Je disais souvent que c'est pas bien de s'exprimer, de parler comme ça là où il y a les grandes personnes. Du coup, ça a un peu atténué cette motivation que j'avais de parler. Et j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un milieu, je suis toujours dans mon coin. J'ai du mal vraiment à m'intégrer, à parler. J'ai pas cette confiance en moi, c'est pas spontané. Donc même il y a des choses que je peux bien faire, mais je peux pas faire parce que je me dis que je serai jugée ou encore ça va pas marcher. Il y a toujours ce blocage.
Peur d'être jugée, Aude, après avoir ressenti une forme d'injustice quand vous étiez petite.
Oui, parfois ce que je pense n'est pas mal, mais j'ai toujours cette peur d'être jugée ou d'être grondée. Il y a toujours. Et rester, en fait.
Mais finalement, quand vous parlez au fond de vous, quand vous parlez de vous-même, vous dites que vous savez quand même qu'il y a du bon en vous. C'est ce que vous nous dites.
Oui, je le sais parce qu'il y a ces personnes qui me connaissent bien, qui l'apprécient. Ils disent ce qu'il y a de bien en moi.
Il faut écouter ces gens. Faut écouter ces gens. Mamadou Mbodj,
je vous laisse. Et en même temps, quand on vous entend parler, il y a rien d'aussi normal que ça.
Tout va bien.
Ça veut dire donc que c'est plus le regard que vous portez sur vous. J'ai un confrère qui disait que ce qui nous est arrivé enfant, on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé enfant, mais de ce qu'on fait avec. Comment utiliser ça maintenant dans votre vie adulte? Parce que votre destin, c'est à vous de le construire. D'accord? Quelle initiative prendre dans votre vie quotidienne, aujourd'hui adulte, des groupes de parole, soit faire du théâtre, soit faire voir au niveau de votre travail, au niveau de votre environnement social, les initiatives que vous pourriez prendre pour sortir petit à petit de cette bulle dans laquelle vous vous êtes enfermé, en vous disant également que les autres n'auront pas forcément envie de venir vers vous quand, dans un groupe, vous vous mettez systématiquement de côté. D'accord ? Ça a toujours fait peur aux gens. Dans un groupe, même si tout le monde est là à bavarder, voir quelqu'un arriver s'enfermer dans son silence, se mettre de son côté, d'abord on va se dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes, et quelqu'un qui a des problèmes, on n'a pas forcément envie, parce que tout le monde en a. Donc on n'a pas forcément envie de s'approcher de ce quelqu'un, et ça fait peur, ça inquiète les gens, ou ça ne les intéresse pas. Alors, quel effort vous pourriez faire sur vous pour sortir de cette bulle, d'accord? Parce que quand vous parlez, ben, vous êtes normal. Vous voyez? Là, vous nous parlez, c'est une chose extrêmement difficile en plus, de parler directement à la radio, parler au téléphone. Quand vous nous parlez, vous êtes normal. Ce que vous dites est clair et vous le dites très bien, de manière très pertinente. Ça veut dire donc que c'est plus le regard que vous portez sur vous que la réalité de ce que les gens pourraient voir en vous. D'accord? Il y a plusieurs initiatives possibles. Il y a des groupes de parole où vous pouvez aller. Il y a même des groupes qui ne sont pas des groupes de psy, mais où vous allez faire face à des spécialistes de la parole pour prendre la parole, exposer des textes, vous présenter, parler de vous, ou aller faire du théâtre, d'accord? Ou participer à une chorale. Il y a énormément d'activités sociales aujourd'hui possibles.
Où on travaille l'expression.
Voilà, où on travaille l'expression.
Et Aude, dans votre travail, vous êtes amenée à vous exprimer, à avoir des relations ou dans votre vie sociale si vous ne travaillez pas?
Non, pas vraiment.
Vous faites quoi au quotidien?
Bon, pour l'instant, je suis encore à l'école. Je fais une école d'ingénieur, mais on n'est pas vraiment en contact avec les étudiants.
Mais malgré tout, quand vous faites j'imagine, il y a des exposés, il y a des présentations, voire même dans les relations avec les enseignants, vous êtes bien contrainte de vous exprimer. Sinon, si vous restez dans votre petit coin, vous n'allez pas progresser dans vos études.
Et même dans ce sens, j'ai des difficultés, parce que parfois même en classe, j'ai même du mal à poser les questions. Là où il y a des zones d'ombre, je me sens souvent mal. Je préfère parfois poser au voisin qui est à côté, ou encore demander à quelqu'un qui est plus proche que de demander directement au prof. Je me sens déjà gênée, je ne sais pas, il y a
Et il n'y a pas des activités dans l'école, justement, des activités de théâtre, des activités culturelles, voire même une assistante sociale, quelqu'un qui en parlait?
Des activités, il y en a, mais c'est que je ne suis pas en fait.
Eh bien, allez vous inscrire.
Absolument, tout à fait.
Est-ce que vous auriez l'envie, la possibilité de le faire, allez vous inscrire? Est-ce que vous auriez cette démarche aujourd'hui?
D'accord, je vais commencer. Peut-être que ça va m'encourager à continuer.
Certainement, rencontrer des gens qui ont un bon retour sur ce que vous faites et ça vous fera plaisir.
D'accord.
Très bonne journée à Brazzaville, Aude. On part pour la République démocratique du Congo, pour Lubumbashi, où l'on va retrouver Ronnie. Bonjour Ronnie.
Bonjour Caroline.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Oui, on vous écoute.
J'ai un problème dans mes relations amoureuses, c'est que je veux les construire sur les valeurs chrétiennes sur lesquelles j'ai grandi. Et dans mes relations, je dis à mes partenaires dès le départ que je veux qu'il y ait de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage pour envisager une vie active sexuellement. Mmh. Et ça constitue un blocage dans la plupart de mes relations. Et puis après ce principe de valeurs chrétiennes avec lesquelles j'ai grandi, il y a aussi une rupture difficile que j'ai eue il y a 6 ans. Ben, c'est vrai, je me suis relevée, j'ai pardonné. Mais en fait, j'ai eu peur de m'impliquer plus émotionnellement pour ne pas être déçue en cas de rupture. Mmh. Alors, depuis la rupture difficile, toutes mes autres relations se terminent aussi rapidement parce que je ne veux pas qu'il y ait des relations sexuelles avant le mariage. Et puis, j'ai peur d'être blessée si je m'ouvre trop émotionnellement.
Donc, cette question...
Le docteur peut m'aider.
Alors, cette question qui va donc se poser à Mamadou Mbodj, la ligne n'a pas été très très bonne tout du long, donc j'ai un petit peu rappelé. Vous êtes de religion chrétienne, vous tenez à la chasteté jusqu'au mariage. Vous avez eu, il y a quelques années de cela, il y a 6 ans, cette rupture amoureuse, et depuis vous êtes, on va dire, blessée. Donc, il y a cette question de l'engagement. Vous avez envie d'avoir des amitiés, des amours, mais chastes, hein, comme vous l'avez dit. Et tout ça, du coup, on va dire que peut-être ça décourage pas mal de prétendants. Mamadou Mbodj, qu'est-ce que vous pouvez dire
oui,
à Ronnie?
Bien entendu, ça décourage pas mal de prétendants, mais je tiens à vous rassurer que au niveau de ce besoin de garder votre chasteté jusqu'au mariage, on ne peut que vous accompagner là-dessus, on ne peut que respecter ça. Et toute personne à qui vous seriez confronté, je veux dire, ne peut que respecter ça. Maintenant, libre à cette personne de rester ou d'aller voir ailleurs. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas tant cette chasteté que la peur de vous impliquer émotionnellement, vous en parlez, pour ne pas être déçu. Donc si ni sexuellement ni émotionnellement vous ne parvenez pas à vous laisser aller dans une relation, vous pouvez bien comprendre que l'autre n'est rien à faire si vous voulez dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on puisse respecter votre besoin de chasteté jusqu'au mariage est une chose que tout le monde doit respecter, libre à l'individu de rester ou de partir. Mais si en plus de ce besoin de chasteté, il y a ce refus de vous impliquer émotionnellement parce que vous avez peur d'être déçu, vous imaginez bien que, à votre âge, ben il y a très peu de chances que quelqu'un puisse rester.
S'il n'y a ni le sexe ni les sentiments, il va manquer quelque chose.
Il va manquer quelque chose d'essentiel. D'accord.
Ronnie, est-ce que vous sentez prête à tomber amoureuse?
Oui, je me sens prête. La chose qu'il y a toujours en cette crainte là, je veux dire.
Il y a une retenue.
Il vous est possible de discuter, parce que la relation, c'est aussi une question de confiance au départ. D'accord? Expliquer à quel point cette chasteté est importante. Il arrive que des individus restent parce que, tout en respectant la chasteté de leur partenaire, d'accord? Et si ce climat de confiance, cette relation de confiance est établie, ben, émotionnellement, je vois pas ce qui vous empêcherait de vous impliquer. Mais si aucun des deux éléments ne figure dans la relation, vous imaginez bien qu'il y a très peu de chances que la relation survive.
Et on peut même, Mamadou Mbodj, dire à cette personne qu'on a rencontrée et qui nous plaît, ben, qu'on a peur des ruptures, qu'on a été blessé, on
absolument
peut raconter son histoire, ça
et
peut aider aussi.
Et qu'il faut qu'il vous donne du temps.
Et qu'on a besoin de cicatriser encore.
Quitte à ce que vous alliez voir quelqu'un aussi à deux pour en parler, un spécialiste. D'accord ?
Voilà, Ronnie, on vous souhaite une bonne journée à Lubumbashi en RDC. On retourne au Cameroun, où l'on retrouve Joël. Bonjour, Joël.
Bonjour, Paré. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Mamadou. Mon problème est le suivant. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 19 ans, j'ai été élevé par mon arrière-grand-mère maternelle, où elle m'a vraiment tout donné. Moi, ce qu'elle avait pour m'élever, ma maman était à près de 400 km de moi. C'était la distance. Il n'y avait pas de relation affective. J'ai dû recevoir ce que j'appellerais l'éducation matérielle. Qu'on m'inscrive à l'école, des vêtements et tout. Donc la relation affective, je n'ai pas eu. Et mon papa, lui, c'était un peu plus grave ces dernières années que je l'ai rencontré par mes efforts personnels. Et aujourd'hui, je suis dans une situation où, quelquefois, je doute de moi. Je fais difficilement confiance à autrui et je m'ouvre difficilement aux autres aussi. Et au niveau relationnel même, les filles que j'ai eu à rencontrer évoquent presque le même problème. Tu ne t'ouvres pas, tu es beaucoup trop introverti et quelquefois, un manque d'attention à leur égard. Donc pour moi, je viens là vous demander quels sont quelques moyens. C'est vrai que j'ai dû lire des documents en ligne, comment booster tout ça, mais je crois qu'il y a encore un gros travail à faire. Raison pour laquelle...
Vous nous avez appelé, Joël, justement, cette question. Si vous faites le lien entre cette enfance assez triste avec l'absence de la maman, l'absence totale du papa, l'éloignement de la mère, c'est vous qui avez fait ce lien entre aujourd'hui ce que vous appelleriez un petit peu votre cloisonnement, votre impossibilité à établir un lien avec quelqu'un d'autre. C'est vous qui avez fait ce lien avec votre enfance ?
Oui, je dirais, parce que la grosse responsabilité a été était la mienne, parce qu'à un moment, il a fallu que je me rapproche des autres, c'est-à-dire des deux papas.
Oui,
deux parents, je veux dire.
Mamadou Mbodje.
Oui, et la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, elles étaient présentes, les grand-mères, les grands-parents?
Oui, bon, beaucoup plus l'arrière-grand-mère maternelle, vu que c'était avec elle que je vivais. Et elle m'a vraiment tout donné, la seule personne à qui je suis vraiment reconnaissant.
Ben, j'ai envie de vous dire qu'elle vous a donné l'essentiel. Parce que ce qui était important, c'est que vous ayez pu avoir un adulte, une référence, une figure maternante, d'accord, durant cette période-là, que vous n'ayez pas été confié à une domestique ou que vous n'ayez pas été laissé seul. Il y avait cette arrière-grand-mère qui était là, qui vous a donné de l'affection, en vous disant maintenant que même malgré le fait d'avoir retrouvé le père, ce qui est une bonne chose, et le fait d'avoir eu la maman, même si elle était absente, l'essentiel était là, à vous maintenant de voir comment construire le reste pour votre vie. Comment faire le deuil de ce que vous n'avez pas reçu, d'accord ? Et vous construire autour de ce que vous avez eu, ce que vous avez reçu et ce que vous voulez faire de votre vie.
Mamadou Mbodje,
pour cela, je pense, oui.
On comprend que Joël a de la peine, en fait, d'avoir été laissé par ses parents, mais ce que vous lui dites, c'est qu'il faut qu'il dépasse cette peine.
Il faut qu'il dépasse cette peine. Il faut qu'il en fasse le deuil, soit seul, soit en allant travailler avec un spécialiste là-dessus, pour voir comment utilisez tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce que vous avez eu, mais tout ce que qui vous a manqué pour construire votre vie d'adulte maintenant à 29 ans. Il est temps.
Mais Joël, vous n'avez pas la pression déjà, Joël, en disant ce qui vous a manqué, que vous avez fait un premier pas.
Absolument.
Vous dites déjà, il m'a manqué ça quand j'étais petite. D'accord, j'ai eu mon arrière-grand-mère, elle m'aimait beaucoup. Ma mère m'a manqué, mon père m'a manqué. Mais déjà, vous avez compris énormément, non ?
Effectivement, là, je réalise.
Oui. Oui.
Oui, s'il vous plaît, vous parlez de voir quelqu'un, je ne sais pas, à Yaoundé, je ne sais pas si c'est un luxe ou c'est parce qu'ils sont rares.
Pourtant, ils existent à Yaoundé. D'accord ? Ils existent à Yaoundé. À défaut d'un psychologue, il y a des psychiatres à Yaoundé. D'accord ? Sinon, dans le pire des cas, trouvez un médecin.
Un médecin qui peut-être même a dans ses contacts un
dans
psy,
leur formation même,
ou dans sa formation, qui a cette capacité de vous
absolument.
Écouter et de vous conseiller.
D'accord ?
Ah ok, merci pour cette assistance.
Voilà, et je pense que ça vous fera du bien, parce que l'essentiel est déjà fait par vous.
Très bonne journée à Yaoundé, Joël. On va partir pour Conakry, pour la Guinée, où l'on retrouve Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour, Priorité Santé, bonjour toute l'équipe.
On vous écoute.
Ah. En fait, j'ai un problème de mes relations amoureuses. Je suis amoureuse d'une fille et puis ça fait plus de 4 ans qu'on sort ensemble. Mais tout dernièrement, là, j'ai su qu'elle me trompe, qu'elle me ment à chaque fois. Tout ce qu'elle me dit, je trouve le contraire. Et une fois, je me suis dit de fouiller d'après elle. Donc, elle m'a donné son téléphone pour la configuration. Un téléphone Android, directement, j'ai profité de regarder dedans. Et réellement, je suis qu'elle me casse. Directement, j'ai su, il y a des messages, des photos, nues, etc. J'ai compris qu'elle me trompe. Directement, j'ai cherché à l'en parler, mais elle a tout nié. Donc, je ne sais quoi faire. Je suis tellement perdu. À préciser que je suis follement amoureux d'elle.
Vous êtes très amoureux. Vous êtes perdu. Vous êtes triste ou vous êtes en colère?
Les deux à la fois.
Oui.
Elle a vu votre réaction quand vous lui avez posé la question. Elle a vu dans quel état vous étiez. Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Non, elle m'a dit de ne plus faire ça, que je cherchais en fait. Elle m'a dit que je cherchais. Si je ne fouillais pas, je n'allais pas voir. J'ai dit oui, il y a des causes qui ont fait que oui. Très bien sûr, j'ai fouillé dans ton appareil, puisque j'ai cru que tu me manques. Hein. Deuxièmement encore, à travers tes comportements, vraiment, ce n'est plus comme avant.
Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de l'avoir espionné?
Non, je ne regrette pas.
Vous ne regrettez pas?
Je ne regrette pas.
Mamadou Mbodj.
Je vais commencer par ça. Je pense qu'il faut absolument éviter désormais de fouiller le téléphone ou le sac de votre compagne.
Ouais.
C'est vraiment du domaine privé.
Ouais.
Quand on en arrive à ça, quand on n'a plus confiance en l'autre jusqu'à éprouver le besoin ou de le faire suivre, ou de fouiller dans son sac, ou de fouiller dans son téléphone, vaut mieux peut-être essayer d'arrêter la relation ou expliquer à la personne le mal-être dans lequel vous êtes. D'accord? Ce qui s'est passé, elle vous a trompé de nouveau, vous avez découvert. Essayez d'en parler pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui lui manque dans cette relation. On ne peut pas forcer maintenant, puisque vous dites que vous avez l'impression qu'elle-même ne ressent pas la même chose que vous. À ce moment-là, proposez-lui une séparation, voir si la perspective de cette séparation ne la gêne pas, ne la dérange pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire dans cette relation. Si maintenant elle vous dit qu'elle ne tient pas à se séparer de vous, qu'elle veut préserver cette relation, à ce moment-là, vous essayez d'établir des conditions pour le maintien de la relation et comprendre d'où vient cette infidélité si elle-même ne sait pas. Parce que ça arrive aussi. À ce moment-là, vous allez voir un spécialiste du couple qui vous aidera. D'accord? Parce qu'une infidélité ne peut pas justifier une rupture. C'est pas parce qu'un des conjoints trompe l'autre que forcément on va rompre. D'accord? Maintenant, cette infidélité répétée non plus ne peut pas justifier une rupture. Mais à ce moment-là, puisque vous vous tenez à elle, essayez d'aller voir un spécialiste, essayez de la persuader d'aller voir avec vous un spécialiste qui vous aidera, qui vous accompagnera et qui vous aidera à comprendre pourquoi cette infidélité. D'accord? Qu'est-ce qui manque dans la relation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été faussé dès le départ pour qu'elle éprouve le besoin de le faire?
Abdoulaye, vous êtes prêt, vous, à cette démarche et vous pensez que votre compagne, elle est prête à le faire?
Non, puisque nous ne sommes à Conakry, il n'y a pas ce domaine-là parfaitement chez nous.
Si,
okay,
je vous parle en connaissance de cause, ça existe à Conakry, j'en connais, des spécialistes.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres méthodologies ou d'autres méthodes ou d'autres solutions en fait?
Il n'existe pas d'autres solutions que je ne vois pas, ou alors des amis un peu plus expérimentés que vous, si vous ne voulez pas aller voir un psychologue ou un médecin. Il suffira juste de quelqu'un d'assez averti qui puisse vous accompagner.
Si vous permettez, je vais vous expliquer juste une petite histoire qu'elle vient de me faire tout récemment. Ok? Un jour, je l'appelle, il n'y a pas longtemps, et chez elle, il y a plus de 5 kilomètres. Il y a plus de 5 kilomètres qui me séparent. Moi, je suis chez moi, je l'appelle pendant toute la journée, ok, de passer chez moi. Elle me dit qu'elle lave ses habits directement et qu'elle ne veut pas passer, sauf après. Ok, la lessive. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. À n'importe quelle heure, tu peux venir. directement, la nuit tombe, vers 20h, 21h, je l'appelle et me dit qu'elle a fini, mais il n'y a pas courant. Donc, qu'elle ne peut pas se déplacer sans se laver. Je lui ai proposé moi-même de prendre ses habits, ok, ses habits propres, de venir, puisqu'il y a l'eau sur moi, de venir se laver sur moi. Elle me dit non, qu'elle ne va pas se sentir mieux dans ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Après 15 minutes, son ami, je l'appelle, son ami prend l'appareil, ok, directement son ami me dit qu'elle est tombée.
On comprend le nœud de l'affaire, c'est que c'est beaucoup d'arguments, beaucoup d'explications. Et ce qu'on comprend, Abdoulaye, c'est que vous n'avez plus confiance en elle. C'est vraiment quelque chose qui s'entend dans ce que vous dites. Donc moi, je vais reprendre parce qu'hélas, le temps nous presse. Ce que vous a dit Mamadou Mbodj, il faut en parler à quelqu'un. Un psy, si vous avez la possibilité, quelqu'un de sage, on va dire, dans votre entourage, s'il n'y a pas d'autre recours. En tout cas, là, on ne peut pas aller plus loin dans cet échange. On est sincèrement désolé. Et en fait, le temps passe très, très vite quand on écoute tout ce qu'ont à nous raconter les auditeurs et les auditrices de Priorité Santé. Et je vais vous remercier infiniment, Mamadou Mbodj, d'avoir participé à notre émission. Et je peux vous le promettre, on va renouveler l'expérience parce que c'était très, très concluant.
Ce serait avec plaisir.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie à Dakar, au Sénégal. Comme chaque semaine, on retrouve les questions des auditeurs de Priorité Santé, des questions adressées à vous, docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue et c'est Dramane que l'on retrouve en ligne d'Abidjan, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Dramane, bonjour.
Bonjour.
On écoute votre question, Dramane.
Elle dit, c'est ma petite amie, avant qu'elle fasse notre premier enfant, c'était bien pour elle. Maintenant, après, quand on fait rapport, elle se sent mal. Donc, ce que je voulais savoir, si c'est un maladie ou bien, bon, si c'est l'accouchement qui a causé ça.
Depuis combien de temps votre fiancée, votre amie a-t-elle accouché?
Ça vaut un an et 4 mois aujourd'hui.
Alors, 16 mois depuis l'accouchement de la compagne de Dramane, des douleurs, des problèmes lors des relations sexuelles. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur Solano?
D'abord, c'est qu'après un accouchement, c'est assez normal de ne pas retrouver tout de suite des relations sexuelles normales parce que le corps est passé quand même par une épreuve physique importante. On dit des fois que c'est comme les Jeux Olympiques hein, au niveau dépenses d'énergie. Donc, ce que j'ai compris, c'est que l'amie de Dramane n'a plus de plaisir parce qu'elle a des douleurs. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle a des douleurs? Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir des douleurs, avoir mal et en même temps avoir du plaisir. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle a mal?
Et quelles sont les raisons qui peuvent faire qu'après, justement, un accouchement, ces raisons, pourquoi une femme ressent-elle ces douleurs pendant les relations sexuelles?
Au début, la première chose, c'est les rapports sexuels repris trop tôt. Par exemple, quand vous venez d'avoir eu un bébé, le vagin a été beaucoup étiré, il faisait plus de 3 kilos en général, et il est passé par la zone vaginale. Donc, comme elle a été étirée, il faut du temps pour qu'elle retrouve sa tonicité et son état, je dirais, pas antérieur, mais normal, et que la sexualité fonctionne. Et puis, souvent, au moment de l'accouchement, il peut y avoir une petite déchirure, ou une grande d'ailleurs, une déchirure, ou une épisiotomie, c'est-à-dire une coupure faite volontairement par le médecin gynécologue ou la sage-femme, et il faut que ça cicatrise. Alors, souvent, ça peut cicatriser rapidement, mais quelquefois, ça prend des mois, et on peut continuer à avoir mal si la cicatrisation s'est pas bien faite. Donc, ça peut être une cause de douleur qui dure assez longtemps après.
Ça signifie, docteur Solano, qu'une reprise trop rapide des relations sexuelles après l'accouchement, une déchirure, une épisiotomie, on voit ces raisons, là, que vous venez de nous expliquer, mais est-ce qu'il y a d'autres causes pour ces douleurs post-accouchement?
Oui, il y a aussi une autre cause, c'est le problème de lubrification vaginale. Donc, après un accouchement, une femme a très peu de lubrification vaginale, voire pas du tout, quand elle essaye d'avoir un rapport sexuel, au moins pendant 3 mois. Ça peut durer 6 mois. Et du coup, c'est à cause des hormones œstrogènes qui chutent hein, après l'accouchement. Et alors, le problème, c'est que tout ce dont je viens de parler, tant l'épisiotomie, les déchirures, le manque de lubrification, ça peut poser des soucis à long terme. Donc, parce que là, l'amie de Dramane, ça fait 16 mois qu'elle a accouché. Si on se force à avoir des rapports sexuels quand on a mal. Par exemple, une femme qui a une épisiotomie, elle a mal. Mettons 3 mois, 4 mois après, elle a toujours mal. Elle se dit quand même, soyons sympas. Pour mon conjoint, c'est pas marrant de plus avoir de rapports sexuels. Je serre les dents et j'ai un rapport sexuel. Donc, elle va avoir mal. Le problème, c'est que ça met une mémoire de la douleur et que le rapport suivant, elle a peur d'avoir mal, donc elle se crispe, elle a moins de lubrification, risque d'avoir mal, et ça peut durer longtemps. Donc, et puis il y a aussi une autre chose, c'est que le désir peut baisser après un accouchement, il baisse toujours d'ailleurs, à cause de la prolactine, qui est une hormone qui monte. Les œstrogènes baissent, moins de lubrification, la prolactine monte, moins de désir. Du coup, c'est pas évident dans les premiers mois. Voilà, donc
et des conseils justement pour conclure, des conseils pour Draman.
Alors les conseils, c'est d'essayer de comprendre pourquoi elle a mal. Est-ce que c'est un endroit précis pour éventuellement demander à un médecin de regarder s'il n'y a pas une petite anomalie ou quelque chose qui peut expliquer ça. C'est d'utiliser beaucoup de lubrifiants et surtout d'aller très doucement, d'arrêter dès qu'elle a mal. Parce qu'au début, peut-être qu'ils pourront même pas avoir de rapport sexuel complet au début, mais en quelques semaines, ça devrait se débloquer. À partir du moment où le cerveau se dit « ouf, j'ai plus mal, je peux y aller », il recommence à avoir du désir et du plaisir.
Voilà, Draman, pour ces conseils que Dr Solano voulait.
Il y a aussi quand même des fois des médicaments ou une contraception hormonale qui peut avoir été changée et ne pas convenir à cette femme-là et qui peut jouer sur les douleurs, enfin sur la lubrification surtout.
Voilà Draman pour ces conseils du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une excellente journée à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et on va passer tout de suite à une question Facebook. Hein. C'est Nicolas, il nous écrit de République démocratique du Congo. Une question qui concerne la contraception d'une certaine manière. Est-ce qu'une fille peut tomber enceinte le jour où elle est déflorée à son tout premier rapport sexuel? C'est la question signé Nicolas sur Facebook.
Alors, je peux répondre en une seconde. Hein, c'est oui, le premier rapport sexuel peut entraîner une grossesse et je dirais même que c'est relativement fréquent. Hein. Et pourquoi c'est relativement fréquent? Ben, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand on a son premier rapport sexuel, en général, c'est qu'on est jeune. Or, quand on est jeune, on est très fertile, bien plus, par exemple, qu'une femme de 30 ans. Donc, le risque de grossesse est élevé. Deuxième raison, parce que une jeune fille, pour sa première fois, elle n'a pas d'expérience par définition, donc elle peut ne pas penser à demander à son partenaire d'utiliser un préservatif ou, comme ils sont novices, bah, de pas bien l'utiliser, donc il y a un risque de grossesse. Elle peut ne pas oser avoir consulté un médecin pour avoir une contraception, évidemment du coup il y a un risque de grossesse. Et puis, très souvent, il y a une chose à laquelle on pense pas, c'est que si elle dit oui pour la première fois juste ce jour-là, eh ben c'est parce qu'elle en a peut-être plus envie que les autres jours. Et quand on en a plus envie, c'est souvent le jour où on est en période d'ovulation, donc très fertile. Donc ça fait beaucoup de raisons d'être enceinte la première fois.
Donc même une toute première fois, il faut absolument mettre en place une contraception qui peut être aussi, hein, par contre-coup, une protection contre les infections sexuellement transmissibles.
Voilà, exactement. Je traduis, ça veut dire le préservatif est totalement indispensable pour la première fois.
Voilà.
Et merci. Les suivantes aussi, d'ailleurs.
Voilà pour ces conseils et cette réponse à la question Facebook de Nicolas. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue et on vous retrouve très bientôt, hein, dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise Priorité Santé. À Cétoussa Makiofili, La Seine, Didier Bleu, aujourd'hui Thibaut Baduel. Demain, nous allons parler des maladies tropicales négligées. Où en sont les programmes de lutte? Comment améliorer la prise en charge? Nous en parlons avec nos invités. On se retrouve demain.
C'est Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.